بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخنا الإسلام. Nous remercions Allah Azza wa Jal qui, dans sa grâce, par sa clémence, nous donne la possibilité de nous réunir de nouveau après une longue période d'interruption. Bienvenue pour reprendre l'étude de Kalamullah, l'étude de la parole d'Allah, le tafsir de Al-Qur'an Al-Azim. Avant le mois de Ramadan, on avait commencé la sourate Al-Haqqa. C'était à la fin du mois de Sha'ban. On avait démarré, je pense, une dizaine de versets de la sourate Al-Haqqa, donc le 29e juz. Et puis il y a eu le mois de Ramadan, après il y a eu les vacances et tout ce qui s'enchaîne, khair, inshallah. Donc on va essayer aujourd'hui de reprendre un petit peu depuis le début de Al-Haqqa, mais de façon synthétique, juste pour se resituer dans le contexte, afin de pouvoir, peut-être aujourd'hui ou la semaine prochaine, reprendre au point exact où on s'était séparé à la fin du mois de Sha'ban. Mes chers frères, il est plus que nécessaire d'être convaincu et de se rappeler que le plus grand ni'ma qu'Allah peut nous accorder, c'est la possibilité de comprendre sa parole. C'est la possibilité d'étudier la parole qu'il a révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prophètes, par l'intermédiaire du meilleur des anges, Jibril alayhi salam, à l'attention de la meilleure des communautés, notre communauté, parce que notre prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé qu'Allah Rabbul Izza lui a donné l'enseignement taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu abada kitabullahi wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses, si vous restez fermement accrochés à ces deux choses, vous ne serez jamais égarés. Et ces deux choses, c'est la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa salam. Donc un croyant qui a la possibilité d'étudier la parole d'Allah, c'est un croyant qui va se ressourcer à partir de la parole d'Allah. C'est un croyant qui va se saisir de ce hable, de cette corde qu'Allah nous a accordée, de ce guide qu'Allah nous a révélé et dont Allah a garanti la protection jusqu'au Qiyamah, et pour lequel il a annoncé que celui qui le suit restera sur le sirat al-mustaqim, sur le droit chemin. Et celui qui le suit, en plus de rester sur le droit chemin, il sera protégé des dhalal, de mardoub alayhim et de dhalin, des voies de ceux qui se sont égarés avant nous, mais également de n'importe quelle fitna, n'importe quelle source de trouble. Alors que nous vivons dans un monde rempli de troubles, nous vivons dans un dunya, dans un monde où on n'arrive plus à distinguer le bien du mal. On n'arrive plus à distinguer le musulman pratiquant du musulman qui exagère, le musulman qui se réfère au texte et celui qui joue avec les textes, celui qui suit ses passions, qui suit ses pulsions en essayant de pratiquer la religion. On vit dans un monde extrêmement complexe. Et celui qui suit la parole d'Allah fermement, il ne sera jamais égaré, ni par les fitnas, les troubles, ni par les hawas, les wasawis de shaitan, les insufflations de shaitan, ou alors les pulsions, tout ce qui nous pousse à faire le mal. Ça, c'est tout ce que nous allons obtenir en étudiant régulièrement la parole d'Allah. Ça, c'est en ce qui concerne al-huda, en ce qui concerne la guidée. Maintenant, pour notre construction spirituelle, on pourrait dire même personnel, de notre relation avec Allah par le biais des a'mal, l'étude des versets du Coran va donner un autre niveau à notre khushu', notre concentration dans la salah. Celui qui étudie la parole d'Allah, lorsqu'il l'écoute du imam ou lorsqu'il le lit lui-même dans la salah, il trouvera une dévotion. Il trouvera la douceur qu'il y a dans la parole d'Allah parce que son cœur a commencé à aimer la parole d'Allah. Et ça c'est une étape essentielle pour le musulman. Aimer la parole d'Allah. Et quand on dit aimer la parole d'Allah, ce n'est pas uniquement aimer l'écouter. C'est pas quand c'est Manchaoui, c'est Abdul Barsal, c'est Shuraim, Soudais, là j'écoute, je suis content. Mais quand c'est le imam du coin, il dit ah, lui, il vaut mieux, il fait son amas vite, il ne connaît pas lire. Ou alors, c'est pas le choix de la voix Ça, c'est presque, hein, c'est vraiment basique, ça. Celui qui vient écouter un grand qari, et si un bon lecteur il vient, s'il n'y en a pas, il reste chez lui, cette personne n'a rien compris. Aimer la parole d'Allah, c'est se retrouver à travers la parole d'Allah. C'est arriver, et ça c'est vraiment le summum du tadabbur, c'est arriver à resituer sa vie à travers les textes, les versets du Coran. C'est lorsque je lis, par exemple, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam, lorsque je lis l'histoire de Moussa alayhi salam, j'arrive à trouver des points communs entre les situations qu'ils ont vécues et ma propre vie d'épreuves, de difficultés, de tests, de rejets de la part des gens, de trahison, et j'arrive à réaliser que l'aide d'Allah est venue pour ces anbiya parce qu'ils avaient une ligne de conduite, ils ont agi d'une façon, la façon qu'Allah attendait d'eux, et c'est le sunnah, c'est leur façon d'agir, et si j'emprunte le même chemin, Allah Azza wa Jal va me gratifier, Allah va me protéger, va m'élever de la même façon. J'arrive également à trouver cette consolation que si les meilleurs des êtres humains, les meilleurs des créatures d'Allah ont connu telle difficulté, que dire si moi je connais une partie de ces difficultés? C'est-à-dire que l'étude du Coran nous permet également, au-delà du huda, de la guider, au-delà de la spiritualité dans la lecture du Coran, dans l'écoute de la lecture du Coran ou de la prière, ça nous permet également de donner un sens à notre vie. Parce que chaque personne qui est venue sur terre a eu un taqdir, une vie, un début, un dénouement, des hauts et des bas, des péripéties, de l'aide. Et la personne s'est éteinte, elle est retournée auprès d'Allah, avec sa situation, avec ses a'mal. Ben, nous ne faisons que suivre différents tracés. Inna sa'yakum la shatta. Notre parcours est différent. À nous d'analyser les parcours cités en exemple de le Coran, les parcours des anbiya, les parcours de ceux qui ont reçu radiyallahu anhum wa radu an, et d'analyser le parcours de ceux qui ont couru la colère d'Allah. Lorsque nous voyons l'histoire de Pharaon, de Qarun, de Haman et des autres ennemis, Abu Jahal et des autres ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes alayhi wa sallatu wa sallam, des gens qui ont été honorés, qui ont été comblés de bienfaits dans ce monde, mais qui les ont utilisés de la pire des façons, à nous de voir maintenant quel sa'i, quel parcours je vais emprunter dans ce dunya. L'ikhwan fillah, ce Coran, c'est une richesse. Ce Coran, ce n'est pas uniquement le livre que je vais prendre durant le mois de Ramadan et le lire de façon intensive. Ça, c'est vraiment le niveau basique. Le mu'min intelligent, le croyant intelligent, celui qui a compris, celui qui devance les autres. Celui qui devance les autres, c'est celui qui est tombé vraiment amoureux du Coran. Et qu'à travers chaque verset, il trouve une partie de sa vie. À travers chaque verset, il arrive à donner un sens à sa vie, à son existence, et par ce verset, se rapprocher d'Allah. Si on vous dit juste « al-haq », comment ça avait été traduit ? L'inévitable, mais également celle qui montre la vérité. Et là, on change un peu de sujet pour vous montrer que quand Allah Rabbul Izzah va développer Al-Haqqa, Mal-Haqqa, les événements qui vont être cités après Al-Haqqa, Al-Haqqa qui fait partie des noms du Qiyamah, tout comme Al-Qari'a. Mais lorsque Allah Rabbul Izzah développe les différents thèmes qui vont suivre Al-Haqqa, ces différents événements qui vont dans le sens de manifestation de la vérité. C'est des versets, ce sont des histoires, des anecdotes, des situations qui nous montrent que dans ce dunya, il y a une face cachée. De ce dunya, il y a la face cachée. Il y a ce que j'essaie de faire voir aux gens. Il y a la tromperie, il y a l'hypocrisie, il y a le mensonge. Mais al-haq, la réalité, c'est ce qui va apparaître au jour de Qiyam. À travers l'histoire des peuples qui étaient comblés de tous les bienfaits et qui n'ont pas accepté la révélation de leur prophète, et comment est-ce qu'Allah, à un moment donné, a dévoilé, a montré leur erreur au grand jour. Et tout le monde a vu leur destruction. Étape 1 de le dunya. Et ensuite, ça c'est les versets qu'on n'avait pas eu l'occasion de développer après le mois, à la fin de Sha'ban, c'est maintenant ces mêmes peuples, comment est-ce qu'ils sont ressuscités? Quelle était l'opinion des gens les concernant de ce monde et quelle est la réalité? Qu'est-ce qu'ils valent vraiment auprès d'Allah? Et là, on doit être capable de faire le parallèle avec nous. Je suis habillé de cette façon, mashallah, la barbe qui est bien taillée, il a des titres, il a ainsi de suite. Ce qu'on donne comme impression, ce qui paraît, ce qui ressort. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est ce que je veux vraiment auprès d'Allah. Et on doit être, nous devons être tous capables de nous remettre en question. Bien inconscient et bien malheureux, celui qui se repose sur ses lauriers. On pourrait dire sur son turban. Celui qui se repose sur ses lauriers, qui estime qu'il a atteint le niveau, the level, et qu'il est déjà bien devant, parce qu'il a... Il a une base spirituelle, parce qu'il a mémorisé le Coran, parce qu'il vient d'une, entre guillemets, excusez-moi, j'ai horreur de ces guillemets, il vient d'une grande famille, il faudrait qu'on m'explique c'est quoi une petite famille d'ailleurs. Il vient d'une grande famille, d'une grande lignée, il vient d'un milieu où il y a des religieux, donc c'est comme si que j'ai eu ça, comme une petite cuillère d'argent dans la bouche quand je suis né, c'est bon, je suis sur le salat al-mustaqim. Le paradis, c'est mon grand-père qui l'a acheté en 1901. Parce qu'il a mis l'argent dans la caisse à mosquée. Les choses ne se passent pas comme ça. Bien inconscient, celui qui s'auto-persuade, parce qu'il n'est pas persuadé, il s'auto-persuade que c'est bon, je suis dans le vrai. Mais qui ne se met jamais en question à travers l'étude des versets. Parce que l'étude des versets du Coran, de n'importe quel passage, ça agit souvent comme un coup de fouet. Ça te fait réaliser que le jour de Qiyama, il y a des gens qui se présentent devant Allah avec des montagnes de récompenses, mais qu'en finalité, haba'am manthura, qu'Allah protège. Et que ces actions seront totalement réduites, ça n'aura aucune importance auprès d'Allah. Et subhanallah, qu'est-ce qui fait que des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, je n'ai plus le nom de ce sahaba en tête, notre expert est parti, Shu'aib était là. Ce sahaba qui, il avouait qu'il le soir, il ne pouvait pas dormir parce qu'il n'arrêtait pas de penser au châtiment de la tombe. Un sahaba, quelqu'un qui depuis Fajr jusqu'à Isha, il est auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il le voit, il le côtoie, il voit la révélation, il l'entend. Il vit avec lui. Il a reçu, radiallahu anhum wa radu anhu. Mais le soir, il ne s'endort pas parce qu'il pense au azab al-qabr, parce qu'il a lu des versets du Coran qui expliquent comment est-ce que les gens, wasiq al-ladhina kafaru, comment est-ce que les gens qui ont fait le kufr, comment est-ce qu'ils seront orientés, dirigés vers le jahannam. Et il a cette crainte. Qu'est-ce qui fait que Umar ibn al-Khattab n'arrêtait pas de s'enquérir et de savoir est-ce que mon nom fait partie du nom des munafiqin. Qu'est-ce qui fait que Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu dit si je savais qu'Allah avait accepté ne serait-ce qu'une seule de mes prosternations, je serais déjà tranquille de ce dunya. Qu'est-ce qui fait que ces sahaba, ces piliers, ces nos héros, ils se remettent en question de la sorte? C'est parce que bien sûr ils côtoyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en plus de côtoyer l'homme, ils vivaient le wahi. Il vivait avec le Coran. Chaque jour, il vivait avec les nouveaux versets et les intégrait de leur vie, de leur compréhension du dunya, de leur relation avec Allah, de leur tracé vers le akhira, et ils arrivaient à se remettre en question. Ils voient le niveau, ils voient ce qu'Allah attend d'eux et où est-ce qu'ils en sont, et c'est pour ça qu'ils essayaient de faire encore plus d'efforts. Alors que celui qui fait inqita', qui s'éloigne totalement du Coran, même celui qui le mémorise, je ne parle pas de celui qui le mémorise. Combien de personnes capables de réciter un juz en 20 minutes sans faire de faute? Mais combien de personnes est capable de vous donner 10 leçons de vie à travers un juz? Combien de personnes capables de dire que j'ai changé ma vie par la lecture de Yassine et de Tabarak al-Ladhi? Et combien de personnes est capable de lire régulièrement ces deux versets, et ça c'est déjà une bonne action, matin et soir par cœur? Donc celui qui lit uniquement, celui qui mémorise, qui le récite, il fait une partie de la bonne action. Mais le mu'min intelligent, c'est celui qui arrive au tadabbur. Le tadabbur, afala yatadabbarun al-Qur'an. Qu'est-ce qui fait qu'un croyant ne médite pas alors que ce Qur'an nous a été révélé chaque fois que nous avons « Ya ayyuhalladhina amanu » Ben cela s'adresse à qui? À ceux qui ont dit « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Vous avez le message de votre Seigneur, nous avons le message d'Allah et nous le délaissons. Nous ne faisons que l'écouter dans une langue que nous ne comprenons pas, nous le récitons dans une langue que nous ne comprenons pas et nous ne faisons aucun effort pour aller puiser à la source. C'est là une grave erreur. Et c'est un bien dont nous nous privons. la seule umma qui a la garantie d'avoir son livre préservé, authentique, jusqu'au Qiyama, et qui n'en profite pas, c'est vraiment khassar. Donc, ikhwan fillah, pour revenir à ce qu'on disait, quand Allah nous donne la possibilité de nous asseoir un instant, d'apprendre al-haqqa, tuma al-haqqa, wa ma adraka ma al-haqqa, on peut dire que c'est un des plus beaux cadeaux qu'Allah nous a accordé. Parce qu'il nous permet de nous rapprocher de lui par kalamullah, par sa parole. Par sa parole. Et durant cette longue interruption, je ne vous cache pas que je n'arrêtais pas de penser à un seul dars. Entre Riyad al-Salihin, Ibn Kathir et Aqidah, c'était le Ibn Kathir qui nous manquait le plus. Et je ne vous cache pas que ça se ressent dans la qualité de la salah. Quand on n'a plus de contact avec l'étude du Coran, on sent une baisse de concentration de la salah. On sent une diminution de la dévotion. Un manque, je ne dis pas un manque d'attention, mais un peu plus de légèreté. Un manque de respect, on pourrait dire, par rapport à la salah, parce que le cœur n'y est pas. C'est-à-dire que ce cœur, il a besoin d'être connecté tous les jours avec le Coran. Si déjà on peut le faire une fois par semaine, le vendredi soir avec d'autres asatid, d'autres professeurs, d'autres mudarrisin, différents majalis, ça nous sera extrêmement profitable. Et si on peut consacrer l'essentiel de notre temps pour étudier le Coran, le sens du Coran, subhanallah, quelle richesse que ce cœur qui est rempli de la connaissance en rapport avec la parole d'Allah. C'est vraiment un cœur qui sera à l'al-huda, qui trouvera la concentration dans la salah et qui va comprendre la vie comme Allah l'attend de nous, parce que sa vie est orientée autour de la parole d'Allah. Qu'Allah nous accepte et nous donne la possibilité vraiment d'être attaché au Coran, de devenir amoureux de la parole d'Allah et de faire des efforts jour après jour. Vous savez, si on étudiait quelques versets tous les jours, je ne sais pas, est-ce qu'au bout d'une vie, il est possible d'étudier tout le Coran? Je ne sais pas. Au-delà des 6000 versets, est-ce qu'on peut, même si on fait un ou deux versets par jour, je ne sais pas. Mais autant qu'on pourra faire, ça ne sera profitable. Imaginez que jusqu'à ce qu'on meure, on fait l'intention d'être régulier. Mais on meurt à 75 ans, par exemple, et on a pu étudier 15 juz, subhanallah. C'est-à-dire que presque la moitié de ce qu'Allah a révélé sur cette umma, on l'a compris. Et pas uniquement comprendre, on l'a compris, on l'a intégré et on a essayé de le mettre en application, en pratique dans notre vie. Qu'Allah accepte ce niya. Avant de reprendre donc al-haqqatum al-haqqa, tout en sachant que le premier programme de reprise, on fait pas long, on reste 30 minutes, donc du coup il nous reste 17 minutes, on ne peut pas démarrer al-haqqa sans remercier Allah Rabbul Izza pour le cadeau qu'il est en train de nous donner en ce moment. De quel cadeau il s'agit, Nabil? De toute façon, le pardon des péchés. Ah, tu parles de la majlis, sans le moindre doute. C'est vrai que assister à une assemblée religieuse, c'est avoir la garantie qu'il y a des malaïkas qui sont présents, qui font dua pour nous et qui annoncent à Allah. Et Allah sait mieux qui étaient les personnes présentes et qu'à la fin, Allah Rabbul Izza promet que les péchés de ces personnes ont été pardonnés et dans une version d'Imam Ahmed, que les péchés ont été transformés en bonne action. Preuve de la générosité d'Allah Azza wa Jal. Sans le moindre doute, barakallah fik. D'une façon générale, on parle maintenant de la période que nous sommes en train de vivre. Wal fajri, wal ayalin ash. Cette fameuse décade de Dhul-Hijjah, qui selon certains savants, cette décade de Dhul-Hijjah a plus de valeur qu'une décade du mois de Ramadan. Et puis certains vont dire que non, Ramadan a plus d'importance, mais après, le but c'est pas de savoir qu'est-ce qui a le plus d'importance, quel rapport moi je vais avoir avec ces ayyam, avec ces jours et ces nuits. Et c'est un cadeau, si on peut retenir deux thèmes, hadiyatun laka min Allah, un cadeau de la part d'Allah pour cette umma. Et un extrait de hadith, arullaha min anfusikum khayra, c'est un hadith qui est récité en général concernant le mois de Ramadan, mais qui peut être appliqué, montrer à Allah tout le bien qu'on peut faire. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle, mal amalu fi ayyamin afdalu anha fi hadhihi. Après, jusqu'à la fin du hadith, on apprendra imprimé en police numéro 9, on voit presque pas. Ça m'a dit qu'il n'y a pas une période de l'année où les actions sont aussi aimées et appréciées par Allah que durant cette période. Là, les termes sont clairs. Il y a différentes narrations qui vont dans le même sens avec différents termes, mais le cadre est posé. Il n'y a pas une période de l'année. Donc là, ça englobe le Ramadan, ça englobe n'importe quel autre mois. Il n'y a pas une période de l'année où les actions sont aussi aimées par Allah que durant la première décade de Dhul-Hijjah. Donc, il y a le croyant, le musulman lambda, qui entend et qui baisse la tête, il comprend, parce qu'il écoute ça depuis qu'il est petit. Et quand il ressort pareil, comme quand il était petit. Et puis il y a celui qui travaille ça, qui prend ça comme une lumière. Le ilm, c'est nour, ça, oui ou non? La connaissance, c'est le ilm qui vient d'Allah, qui vient du Prophète sallam, ça c'est une lumière pour les cœurs. Le mu'min intelligent, c'est celui qui voit cette lumière et qui prend ça de son cœur et qui va travailler ça. Dis donc, que dois-je faire? C'est ça la question. C'est pas uniquement savoir qu'Allah a dit, Allah a décrété, le Prophète sallam aimait. Le Prophète sallam aimait, ben fais-le. Aime-le, aime la même chose et fais-le. Allah Rabbul Izza aime les bonnes actions accomplies durant cette période. Donc, je dois me dépasser dans les a'mal salih. Je dois faire le maximum de bonnes actions durant cette décade. Et il y a pas mal d'anecdotes venant des pieux prédécesseurs. Certains donnaient comme conseil, n'éteignez pas les lumières le soir, les nuits de la première décade de Dhul-Hijjah. Métaphore est très claire, c'est-à-dire, n'éteignez pas les lumières, c'est-à-dire, restez éveillés, passez la nuit en ibad. Et certains pieux prédécesseurs passaient les nuits de Dhul-Hijjah, de la première décade de Dhul-Hijjah, en ibad, tout comme ils le faisaient pendant le mois de Ramadan. Autant on avait une ferveur, une motivation durant le mois béni de Ramadan, nous devons essayer de déterrer ça, de le retrouver, de le ramener cette même ferveur. Et là, on voit un petit peu le paradoxe qu'il y a de le schéma de la religion qu'on s'est fait, on l'a dessiné, enfin c'est quelqu'un qui a dessiné, il avait peu de crayons, donc il a fait ce qu'il a pu, et quand on est dans le mois de Rajab, on fait une grande nuit, 27e Rajab, on appelle ça 7 tabismi, 7, enfin excusez-moi les termes, on fait ça, alors que le mi'raj, on sait que ça s'est passé une fois et qu'il n'y a pas de vertu, les 27 Rajab se répètent, et ce ne sont pas des grandes nuits, là nous avons des nuits magnifiques, gigantesques. Et il y a très peu de rappels à ce propos. S'il devait y avoir un programme spécifique qui devait être fait dans l'année, c'est avant le mois de Ramadan, pour rappeler, ikhwan, ifillah, Ramadan approche, voilà les vertus. Là, il y aurait un sens. Et à la fin du mois de Dhul-Qa'dah, pour dire que nous approchons la première décade de Dhul-Hijjah, il y a énormément à gagner. Ça, ce sont des rappels profitables. Et les pieux prédécesseurs, ils, subhanallah, ils faisaient énormément d'efforts. Alors, on va essayer d'être plus bref, de résumer. Quelles sont les actions que nous devons essayer de faire au mieux? Dites-moi l'action la plus importante déjà. Quelle est cette action qui nous permet d'être en ibadah, subhanallah, pendant des heures et des heures et des heures, sans que jamais le nombre de hasanat greffés ne s'arrête, même si vous dormez? Ça fait très piafoura tout ça. Hein, le jeûne, barakallah fik. Le jeûne, quand tu lis le niya, Allahumma niya soumu, radan laka, jusqu'à ce que tu vas rompre le jeûne, chaque seconde, c'est une seconde où tu es dans le ibadah, et tu es dans le ta'a, dans l'adoration, dans l'obéissance, mais tu es également dans l'istislam, dans la soumission à Allah. You know. Par exemple, à Noir, je sais qu'après Jum'a, il rentre à sa maison, il rentre au Kalikichli. Kalikichi avec papa. Et là, il s'est rappelé que, ah, elle a fait carême aujourd'hui. Vous avez fait aussi. Il a pensé qu'elle a fait carême. Et là, istislam, c'est le nafs. Il écrase le nafs parce que l'être humain a des habitudes. On aime manger telle chose, on aime. Et là, on se dit que, ah ben non, on a fait carême aujourd'hui. Et le fait d'aller à l'encontre de sa passion, de ce qu'on a envie de faire, ben, on le fait pour qui? On donne un sens à ça. Ça, c'est pour Allah. Je ne mange pas, je m'abstiens de manger pour Allah. Et c'est pour ça que le somm, on va pas parler du somm de façon générale, c'est une des meilleures actions, parce que c'est le moment où il y a la soumission totale à Allah, Azza wa Jal. Donc, quel genre de jeûne? Dites-moi. Il y a deux niveaux de somm pendant la première décade. Quand on parle de somme, là, on parle des 9 premiers jours, bien sûr. Parce que le 10e, on ne jeûne pas. C'est quoi les deux niveaux? Le top niveau, ça, c'est le nectar, ça. C'est celui qui peut jeûner les 9 jours. Qu'Allah nous accepte. Celui qui peut jeûner du premier de l'Hijjah au 9e inclus. Parce que le prophète, alayhi salat wa salam, sur le hadith de Hafsa, radiallahu anha, avait l'habitude de jeûner les 9 premiers jours de l'Hijjah. Ça, c'est le summum, ça. Et là, c'est vraiment montrer à Allah qu'on est là. On est présent. Allah aime, on a eu l'information qu'Allah aime voir le mu'min accomplir des bonnes actions. Donc on a dit quoi? Sami'na wa ata'na. On a dit, ya Allah, on a écouté et on met en application. On suit. C'est vraiment le istislam, la soumission, c'est vraiment se jeter en prosternation devant Allah quand il nous demande de faire des efforts. C'est-à-dire jeûner les 9 jours, ça c'est vraiment le summum qu'Allah nous accepte. Et ceux qui n'ont pas pu démarrer, là, demain c'est le week-end, c'est l'occasion. Ceux qui ont la chance d'être fonctionnaires, c'est l'occasion de commencer à jeûner samedi et dimanche et d'enchaîner. Ensuite, le deuxième niveau, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais c'est... Ça, c'est vraiment inimaginable que quelqu'un puisse manquer, c'est jeûner le jour de Arafat. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça ne va pas correspondre cette année entre la Réunion et Mecca. Mais si vous voulez éviter les divergences, ben faites les 9. Du premier jusqu'au 9, vous l'aurez. D'accord? Donc, le prophète, alayhi salatu wasalam, nous rappelle qu'il y a espoir que par ce jeûne, Allah pardonne les péchés de l'année écoulée et, inshallah, les péchés de l'année qui va suivre. Et ça peut paraître exagéré, astaghfirullah. Est-ce que le prophète extrapole? Est-ce que c'est possible qu'Allah pardonne autant? Bien sûr qu'Allah peut pardonner autant. Allah n'est-il pas celui qui a dit « Laylatul qadri khayrun min alfi shahr » Est-ce que ce verset n'était pas un signe de sa clémence? Un signe qu'Allah a bien voulu nous montrer dans ce dunya qu'une nuit de bonne action a plus de valeur que 1000 mois. C'est-à-dire que Allah nous a montré dans le dunya, on a vu, on a entendu, et on le met en pratique avec conviction. Mais ce qu'Allah nous cache de sa clémence, et qu'il nous fera voir le jour de Qiyamah, ça peut être encore plus fort. Et dans les versets de l'Haqqa qu'on ne va pas aborder ce soir, certainement, il y a le moment de la remise des livrets, c'est les versets à partir de 13 ou 14, où le mu'min se présente devant Allah Azza wa Jal et Allah lui fait reconnaître ses péchés. Et la personne, à chaque fois qu'il entend un péché, il baisse la tête, il se sent écrasé parce qu'Allah lui fait reconnaître le péché. Mais à la fin, Allah annonce à cette personne que « J'ai caché tes péchés de ce dunya et le jour de Qiyama, maintenant, je cache tes péchés. Aucun de ces péchés ne sera contre toi. » Et là, la personne, il ressort du tribunal d'Allah en tenant son livret de compte et il dit aux gens le fameux verset « Ha umuqra'u kitabia ». Et les gens pensent que c'était l'homme le plus pieux qui n'a jamais fait de péché. Mais oh non, il en avait des péchés dans son livret de compte. Mais Allah a pitié de lui. Aucun des péchés ne s'est retourné contre lui. Allah les a tous cachés. Ça, c'est manifestation de sa karam, de sa générosité, de sa clémence dans le akhirah. Mais ça, on ne connaît pas tout. On a quelques éléments. Et pour ce dunya, Allah nous a révélé qu'une nuit de Laylatul Qadr peut avoir plus de valeur que 1000 mois. Et également que le jeûne du jour d'Arafat, 2 années de péché peuvent être effacées par Allah. Et Azza wa Jal, bien sûr, il s'agit de petits péchés. Mais dites-moi, ne sommes-nous pas trompés le plus souvent par les petits péchés parce que nous n'arrêtons pas de les minimiser et de les banaliser? À un tel point que les péchés, les petits péchés, ça fait partie du quotidien. J'ai un ami qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp, je me permets de le dire parce qu'il n'écoute jamais les programmes, donc il ne sait pas qu'on parle de lui. Une vidéo de, je ne sais pas, un documentaire ou une pub, je ne sais pas quoi. Il n'y avait que des femmes. Ça ne choque personne. Il dit, tu m'envoies une vidéo, il n'y a que des femmes et tout. Il dit, oui, mais ce n'est pas le but. Il dit, ce n'est pas le but, mais ça ne te choque même plus. Tu ne remarques même plus. C'est-à-dire que nous avons tellement banalisé, ah ben c'est vrai, pour acheter une voiture, pour acheter une boîte de concert, pour acheter tout, Allah Moustan, on arrivait à une telle situation où les petits péchés ont été banalisés. Ce qui fait que nous, dites-moi, complétez la phrase, ce qui fait que nous ne baissons plus le regard, c'est quelque chose, mais au-delà de ça, nous ne demandons plus tawbah. Nous ne ressentons même plus ce sentiment de culpabilité qui doit habiter le cœur d'un croyant lorsqu'il a désobéi à Allah, parce que pour nous, ça ne s'appelle plus péché. Et là, c'est grave. Et on a grandement besoin de ce genre de amal qui va purifier, qui va laver tous les petits péchés qui ont été cumulés. Donc, ikhwan fillah, jeûner le 9 de l'Hijjah. On fait tous l'intention, Inch'Allah. Qui c'est qui fait le nia? Levez le doigt. On va le faire comme à l'ancienne. Inch'Allah, qu'Allah accepte. Il y a juste le tonton qui s'est un petit peu endormi. On fait le nia, on jeûne. Yom Arafah, Inch'Allah. Saum, Inch'Allah. Musta'id. Inch'Allah. Et si on peut démarrer dès demain pour enchaîner les 9 jours, ce serait excellent. Deuxième action sur laquelle nous essayons de nous concentrer, c'est al-iktharu min dhikrillah. Le prophète dit fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid. Le prophète dit faites beaucoup de takbir Allahu akbar, de tahlil la ilaha illallah et de tahmid alhamdulillah. Qu'on peut résumer dans la formule du takbir tashriq Allahu akbar Allahu akbar. Ça c'est le takbir. La ilaha illallah, ça c'est le tahlil. Wallahu akbar, takbir. Walillahi alhamd, ça c'est le tahmid. Donc on essaie de lier ce dhikr le plus possible. C'est dès maintenant ça. Il y a deux niveaux de takbir. Il y a le takbir du premier dhilhijja jusqu'au dixième. Ça se fait mustamirran. Faites-le en sortant de la masjid, en descendant les escaliers, en marchant. C'était sahaba. Allez même au souk. Lorsqu'ils allaient au marché, ils lisaient fort le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et bien sûr, à notre niveau, on ne va pas le faire. On aura la totale, d'accord? On va se faire aplatir comme un panini, d'accord? On sera affiché S+. On va pas le faire. Ça, c'est l'intelligence de contexte. On en a parlé dans un discours récemment. L'intelligence de contexte, c'est être capable de distinguer quelle action est adaptée au contexte et quelle action n'est pas adaptée. Bien sûr, on ne parle pas d'écarter les limites du halal, du haram. Non, bien sûr. Mais les sahaba le faisaient dans un contexte où on est à Madina, quand même. Où l'intégralité des personnes qui sont de le souk sont des sahaba, c'est pas rien. Donc là-bas, il y a Allahu Akbar là-bas, il y a tout le souk qui va continuer, qui va reprendre le takbir. Et ça devait être magnifique, ça, subhanallah. À notre niveau, n'allez pas à Carrefour, Koura demain et faire ça, vous aurez de gros problèmes. Mais on essaie de le lire le plus souvent possible. C'est vraiment le dhikr de la première décade de Dhul-Hijja. On essaie de le faire le plus souvent possible, qu'Allah nous accepte pour cela. Après, il y a le takbir mukhassas, ça c'est du 9e. Ça, les maslas sont très clairs. Après la salat de Fajr jusqu'au 13e, ça c'est autre chose. Donc le dhikr, c'est adhkar, on le fait le plus souvent possible. Imaginez le matin, vous réveillez en état de jeûne, vous avez fait votre tahajjud, vous avez fait votre namaz Fajr en jamaat, vous rentrez chez vous en lisant le takbir et tashrik, vous allez au travail en lisant le takbir. Masha'Allah, quelle lumière, quel nour qu'on est en train de cumuler, quelle journée magnifique, et quelle journée de soumission, de somm, de ibadah et de dhikr. Et troisième action, il y en a plein, enfin les savants ont cité pas mal d'actions, c'est des actions plus ou moins connues, la prière de la nuit, la lecture du Coran et ainsi de suite, les du'as, le tawbatul nasuha. Et moi je me suis concentré, on essaie de se concentrer sur trois actions, et la troisième c'est spécifique vraiment là au dixième de l'Hijja, le sacrifice, le udhiyah. Il faudrait que chaque famille fasse le sacrifice, le udhiyah. Et bien sûr, c'est une question de moyens. Mais nous avons un gros problème d'exagération à La Réunion. Nous avons un gros problème, je ne sais pas, est-ce que c'est un complexe? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est un fantasme peut-être? Il y a autre chose, d'accord? Quand on parle de Kurbani, on pense qu'aux charolais qui font au minimum 950 kilos, voire 1235 kilos. Je crois que c'est le record. Ou on pense aux limousins extraordinaires. On pense... Yani, le udhiyah, le sacrifice, c'est, subhanallah, faire revivre le geste d'Ibrahim alayhi salam, le geste de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par un udhiyah, un sacrifice. Et cela ne nécessite pas des dépenses comme on le voit. Alors, ceux qui le font, on ne juge pas, ils sont sincères sans le moindre doute, ils veulent donner énormément, alhamdulillah. Mais on ne doit surtout pas se focaliser sur ces personnes qui peut-être ont un portefeuille, mashallah, intéressant. Donc, ce n'est pas parce que moi, imaginez que j'ai un budget de 250 euros en poche. Avec 250 euros, je peux faire mon kurbani, oui ou non? Si vous ne savez pas où trouver une chèvre à 200 euros, venez me voir, je vais vous indiquer, moi. Oui, on peut avoir une chèvre, je ne dis pas un cabri, une petite chèvre, qui a l'âge de kurbani à 200 euros. Et vous économisez, et ça se prépare, si on n'a pas les moyens. Tous les mois, on met 20 euros dans une enveloppe. Tous les mois. Et au bout d'une année, on a le budget. Si vraiment on vit vraiment à un niveau vraiment très 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 serré et qu'on a peut-être parfois, à la fin du mois, il ne nous reste même pas 30, 40 euros en portefeuille, mais on essaie de faire ce petit sacrifice, on essaie d'économiser. Et subhanallah, le fait de mettre autant de cœur et de moyens pour faire revivre une sunna, c'est magnifique. De nos jours, autant d'un important sunnat, pas ban sunnat. Le gars dit, lui, il n'est pas ban sunnat. Il est comme ça, comme ça. Mais sacrifice, tu envoies 20 euros à Madagascar. On l'a fait une grande affaire, ou là. Ah, quel sacrifice. Félicitations du jury. Tu as pris un billet bleu, tu as envoyé à Madagascar ou je ne sais pas à quel endroit. C'est vrai que là-bas, à 20 euros, tu peux acheter un cabri ou un mouton. Mais où est le sacrifice? Le sacrifice, c'est donner ce que tu aimes. C'est ton bien, c'est ton argent. Et au-delà de ça, l'animal. Bon, là, nous, on n'a plus trop le rapport avec l'animal parce qu'on l'achète la veille ou deux jours avant. Mais un animal que idéalement que tu as soigné. Un animal que, si on était éleveur, c'est un animal que tu peux vendre, que tu peux traire, que tu peux manger, et ainsi de suite. Mais tu le sacrifies pour Allah. C'est-à-dire quelque chose que tu aimes et tu le donnes pour Allah. Est-ce que c'est comparable entre élever un animal depuis qu'il est petit jusqu'à ce qu'il a un an et demi, tu le sacrifies pour Allah, tu le donnes aux pauvres, et celui qui prend un billet de 20 ou allez même 30 euros, qui met dans une enveloppe et qui dit elle est envoyée dans tel pays. Yani, où est l'esprit du sacrifice? C'est-à-dire que nous, en fait, on choisit ce qu'on aime faire. On aime le kurbani spectacle, mais on n'est pas prêt à faire un sacrifice. Donc le udhiya, si à cet instant, l'instant T, si quelqu'un a 200 euros de son compte en banque, achetez une petite chèvre à 200 euros. Faites revivre le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et enseignez de la même façon à vos enfants le tarikh à l'islam, l'histoire de l'islam, l'histoire des prophètes et le sens du sacrifice. Si nos enfants voient que papa, malgré les conditions, il a acheté, il a fait ce sacrifice, il a coupé, mais la joie des enfants également autour de cet événement, et ils prennent conscience que ça c'est un pilier dans ma vie du mu'min. L'udhiya. Donc, dans la mesure du possible, inshallah, on essaie de le faire. Ah, on va s'arrêter là pour ce soir, inshallah. Donc, officiellement, on va reprendre al-haqqatum al-haqqa la prochaine fois. Quoique ce sera vendredi prochain, ce sera la veille de Eid al-Adha. Donc, ça ne va pas être possible. On va reprendre, inshallah, donc dans deux semaines, après le Eid al-Adha. Et là, on va essayer, inshallah, d'être mustaqim, d'être ferme, d'essayer vraiment d'être présent tous les vendredis et qu'Allah nous accepte. Et qu'Allah ouvre nos cœurs et remplisse nos cœurs d'amour pour sa parole. Ma tawfiq illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.